le réseau d'égouts de Montréal est désarmé face aux fortes pluies. Un texte de Félix Étienne et Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 12 juillet 2024 dans Le Devoir. Le mercredi 10 juillet 2024, les vestiges de l'ouragan Beryl ont paralysé la circulation dans la métropole en inondant de nombreux tronçons d'autoroute. Une situation qui témoigne de la nécessité d'adapter les infrastructures au changement climatique, selon la Ville de Montréal. Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des autos bloquées par de l'eau qui avaient monté jusqu'à leurs fenêtres sur le tronçon de l'autoroute 15, situé entre Côte-Saint-Luc et l'autoroute 40. Des automobilistes pris au piège ont d'ailleurs dû être secourus par des policiers. Même calvaire sur certaines portions des autoroutes 13 et Bonaventure qui ont été fermées à la circulation le temps que l'eau soit évacuée. Le réseau d'égouts de Montréal n'a pas été conçu pour recevoir des quantités de pluie comme les 100 mm tombés ce 10 juillet 2024, soutient Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal. L'événement, bien que qualifié d'exceptionnel, n'en est pas, par contre, à sa première occurrence. Le 14 juillet 1987, un orage avait paralysé la ville et des centaines d'automobilistes avaient dû être évacués d'une autoroute d'Équerry complètement inondée. Même chose le 5 juillet 2005, quand de fortes pluies avaient forcé la fermeture de l'échangeur Lacadie et de l'autoroute d'Équerry pendant quelques heures. Idem le 13 juillet 2013. Les crues répétées qui mettent à mal le réseau routier montréalais ont été à la source de nombreuses actions judiciaires. Uniquement pour les inondations de l'été 2005, la Ville de Montréal a fait l'objet de poursuites dépassant les 8,5 millions de dollars. C'est la topographie du secteur qui fait en sorte que l'eau s'écoule par gravité sur cette infrastructure, explique Isabelle Thomas, professeure à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal, qui n'est pas surprise que l'autoroute d'Équerry soit souvent inondée lors des épisodes de fortes pluies. Pour expliquer pourquoi de telles inondations surviennent bien que le problème soit connu, la Ville de Montréal pointe la mésadaptation et la désuétude de certaines de ses infrastructures souterraines. Quand on a construit le réseau d'égouts de Montréal dans les années 1960, on n'avait pas des pluies diluviennes comme on en voit aujourd'hui. Des précipitations de cette ampleur-là, ça arrive normalement une fois par siècle, explique Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal. Des travaux majeurs seront nécessaires pour régler le problème, dit-il, et on ne peut pas changer tous nos tuyaux en même temps. La ville invite aussi les gens à collaborer pour limiter les impacts des épisodes de fortes pluies. Pendant les fortes pluies, tout ce qui traîne sur le domaine public va être drainé par l'eau et va venir obstruer les bouches d'égouts et les saillies de trottoirs. Donc, c'est très important de ne pas laisser traîner de déchets sur le domaine public, explique M. Sabourin. Il demande aussi aux gens de diriger les gouttières de leur résidence vers des surfaces végétales qui peuvent absorber l'eau, plutôt que vers la chaussée. Montréal s'emploie depuis quelques années à adapter ses infrastructures aux nouvelles conditions climatiques et aux événements météo extrêmes plus fréquents qu'elles provoquent. On construit des bassins de rétention souterrains et on travaille à surdimensionner nos tuyaux, explique M. Sabourin. Ce sont des travaux complexes parce qu'il faut aussi tenir compte des autres réseaux souterrains, comme les conduites de gaz, les fils électriques et les câbles téléphoniques. La métropole prévoit consacrer 390 millions de dollars dans les 10 prochaines années à la mise à niveau de ces infrastructures souterraines. Les saillies de trottoirs drainantes et les parcs éponges, des espaces végétalisés aménagés à une hauteur plus basse que les rues avoisinantes, font également partie des mesures mises en place par la ville. L'eau, plutôt que d'aller chez les résidents, va aller dans ces zones, explique la professeure Thomas. Les saillies de trottoirs végétalisés, quant à elles, permettent à l'eau de s'infiltrer dans des zones en bordure des rues, retenant cette eau dans le sol plutôt que de la laisser se déverser sur la chaussée. La ville de Montréal est assez proactive sur cette question, constate Isabelle Thomas. La ville compte actuellement 7 parcs éponges et 800 saillies de trottoirs végétalisés. Elle prévoit aménager 30 parcs et 400 saillies de trottoirs supplémentaires d'ici la fin de 2025 pour un coût total de 140 millions de dollars. De son côté, le gouvernement du Québec entend consacrer 1,8 milliard d'ici 2029 à l'adaptation au changement climatique. C'était « Le réseau d'égouts de Montréal est désarmé face aux fortes pluies ». Un texte de Félix Étienne et Mathilde Beaulieu-Lépine paru le 12 juillet 2024 dans Le Devoir.
L'Outaouais attire les Ontariens, mais pas leurs impôts. Un texte de Jean-Louis Bordelot paru le 8 mars 2024 dans Le Devoir. Les Ontariens déménagent plus que jamais en Outaouais pour ses logements moins chers, ses garderies et le cachet de sa nature. Mais par quelques tours de passe-passe, plusieurs évitent de payer toutes les taxes dues. Et l'étendue de cet évitement fiscal reste insaisissable, alors que le nombre de déménagements déclarés atteint des sommets. Les chalets poussent dans les forêts du flanc québécois de la rivière des Outaouais. Dans les entrées de garage, la couronne sur les plaques d'immatriculation laisse deviner la provenance de ces nouveaux résidents. Garder sa plaque ontarienne tout en demeurant au Québec pour éviter la facture qui y est associée est un stratagème bien connu dans la région, d'autant que l'amende imposée est de 300 $ au maximum. Puis, attraper les coupables nécessite plusieurs démarches d'enquête, souligne le service de police de la ville de Gatineau, qui n'a pu mettre la main au collet qu'à 12 de ses délinquants l'an dernier. Du côté de la MRC de Pontiac, la préfète Jane Toller opine. On les veut, les Ontariens. On partage une histoire avec eux. Mais, leur lance-t-elle en anglais, si vous restez plus que 6 mois, engagez-vous dans le Pontiac. Dans le Québec, on offre des services, mais on ne reçoit pas les fonds provinciaux pour eux. Si on pouvait récupérer l'argent, ça aiderait beaucoup. L'afflux d'Ontariens et de Canadiens en général en Outaouais ne cesse de gagner en importance depuis la fin de la pandémie. La migration de non-Québécois vers la région s'élevait à 4 000 personnes en 2017. Elle dépassait 7 000 personnes en 2023, selon les compilations de l'Observatoire du développement de l'Outaouais. Combien parmi eux évitent-ils les factures québécoises grâce à la proximité de l'Ontario? Impossible de vraiment le savoir. Déménager au Québec s'accompagne de devoirs, fait remarquer Mme Toller, cette élue elle-même venue de l'Ontario il y a quelques années. Je ne veux pas torontoiser Pontiac. J'ai quitté Toronto pour des raisons. Des millions de dollars. Plus encore que les plaques d'immatriculation, certains Ontariens parviennent à conserver une résidence principale dans leur province d'origine. Ils évitent ainsi de payer tous les impôts québécois. Le Devoir a réussi à parler avec l'un d'eux qui, malgré sa résidence au Québec, enregistre son entreprise en Ontario. Je génère mon revenu dans un bureau à Ottawa. Mon comptable m'a indiqué que c'était plus avantageux de payer ses impôts en Ontario, raconte-t-il de façon anonyme, afin de ne pas être inquiété par le fisc. Les économies peuvent se chiffrer à plusieurs milliers de dollars au fil des années. Un appartement, l'adresse d'un cousin ou une boîte postale peuvent aussi servir de résidence principale pour contourner l'impôt québécois, tout en profitant d'une vie moins chère. Début 2024, le loyer moyen pour un logement de 2 chambres se chiffrait à 1 253 $ à Gatineau contre 1 698 $ à Ottawa. Plusieurs, 400 en 2023, se font toutefois attraper. Revenu Québec a récupéré près de 6 millions de dollars uniquement l'an dernier, une somme en hausse depuis quelques années. Une page sur le site Internet du Fisc québécois permet d'ailleurs au public de dénoncer quiconque est soupçonné d'évitement fiscal. Passer sous le radar n'est pas facile, stipule Jennifer Wallner, spécialiste en fiscalité et en fédéralisme à l'Université d'Ottawa. Les autorités sont bien au fait des stratagèmes. On ne peut pas juste arriver ici et en profiter, explique-t-elle. Plusieurs pointent d'ailleurs sur le radar du gouvernement québécois lorsqu'ils bénéficient du système de santé sans que leur adresse de résidence concorde dans les dossiers des différents ministères. Anglo-québécois, franco-ontariens. Les dizaines de milliers d'Ontariens qui vivent de ce côté-ci de la frontière ne pèsent pas que sur les finances du Québec. Son paysage linguistique en sort aussi bouleversé. La proportion d'anglophones unilingues augmente d'année en année en Outaouais. Et près de 65 % de la population de Gatineau parle les deux langues officielles, le taux le plus élevé du Québec. Chad Bean compte parmi ces néo-gatinois installés sur le flanc québécois de la rivière des Outaouais depuis moins d'un an. Les statistiques linguistiques ne doivent pas éclipser la bonne entente qui règne dans la région, selon lui. Pour certaines personnes, si tu n'es pas unilingue français, tu n'es pas québécois. Ce n'est pas vrai. Deux langues valent mieux qu'une, affirme celui qui naviguait depuis 30 ans entre les deux provinces. Le gouvernement canadien embauche, après tout, la moitié des travailleurs dans la région et promeut l'apprentissage d'une deuxième langue. Pour nous, ce n'est pas « on a besoin », c'est « on veut », témoigne-t-il en français au Devoir. Plus on se rapproche du Québec, plus le français devient une langue courante, selon lui. Déménager et s'adapter au Québec n'est pas un gros saut majeur pour bien des Ontariens déjà habitués à voir du français autour d'eux, dit-il. Ce n'est pas comme quelqu'un qui vient de la Colombie-Britannique ou de l'Alabama. Chelsea, Nouveau-Westmount? Parmi les autres attraits du Québec pour les Ontariens, le parc de la Gatineau. Et il ne date pas d'hier. Le premier ministre Mackenzie King posait déjà, en 1920, son domaine dans les environs de Chelsea. Aujourd'hui, cette municipalité bilingue connaît l'un des booms démographiques les plus intenses du Québec. Plus de 1400 personnes s'y sont installées depuis 2016 pour un total actuel de 8300 hommes. L'allure de certaines demeures pourrait évoquer un certain Westmount. Le conseil municipal et les résolutions se tiennent en français, assure le maire, Pierre Guénard. La langue des interventions publiques dépend toutefois de la préférence du citoyen. Ça rend ça accessible et diversifié. Ça permet aux gens de s'impliquer. Ultimement, on veut une participation citoyenne forte. La municipalité, dont la population est partagée moitié-moitié entre francophones et anglophones, tient à conserver le cachet et le tissu social qui fait son charme, de dire le maire, de façon harmonieuse et respectueuse. Le français se profile vraisemblablement comme la langue d'avenir de Chelsea. Une deuxième école primaire doit y être construite ces prochaines années et la langue d'apprentissage sera bel et bien celle de Tremblay. Ce reportage bénéficie du soutien de l'initiative de journalisme local financée par le gouvernement du Canada. C'était « L'Outaouais attire les Ontariens, mais pas leurs impôts ». Un texte de Jean-Louis Bordelot, paru le 8 mars 2024 dans Le Devoir.
Cœur maraîcher. Un texte de Julie Vaillancourt, paru le 21 mai 2024 dans le magazine Fugue. Aujourd'hui, âgée de 34 ans, Émilie œuvre dans le domaine de l'agriculture depuis près d'une décennie. Après un parcours en communication, elle quitte le milieu de la publicité et découvre sa voie, qui l'amène aux terres maraîchères. Elle obtient alors son diplôme de l'Institut national de l'agriculture bio à Victoriaville, seule école du genre au Québec qui soit exclusivement axée sur l'agriculture bio. À 25 ans, j'avais déjà ça en moi. Je me suis dit, si je le fais, ce n'est pas pour aller appliquer des pesticides, explique celle qui avoue probablement avoir hérité de la passion de ses grands-parents, pionniers des tables fermières au Québec, avec une ferme d'agneaux. J'ai baigné, finalement, dans ce que je comprends, aujourd'hui comme étant une agriculture de proximité. Celle qui semait des carottes à 4 ans sera co-directrice de production au jardin de la Grelinette, avant d'acquérir sa propre ferme à Bedford, dans les cantons de l'Est. Ma conjointe et moi avons acquis une ferme maraîchère qui fermait ses portes, les jardins du Chat Noir, où j'ai été associé pendant près de 2 ans. Comme tout est dans tout, lorsque cette ferme a été mise en vente, nous l'avons achetée. Pour notre première année, nous faisons de la location d'équipements et de parcelles de terrain, notamment à une amie floricultrice, les Jardins de la Renarde. Si Émilie prévoit, bien sûr, revenir à sa terre maraîchère pour la cultiver, elle désire néanmoins s'épanouir avec un présent défi, celui de sa vie, comme elle l'explique. Depuis septembre dernier, Émilie occupe le poste de directrice générale au réseau des fermiers et fermières de famille, un regroupement d'agriculteurs et d'agricultrices locaux bio du Québec. Pour moi, la coop, c'était une opportunité que je ne pouvais laisser passer. Ça fait 10 ans que nous sommes en fonction. À mon arrivée, nous étions 9 employés et sommes présentement 28. On a ouvert 2 épiceries de producteurs agricoles, une première au Québec. Ce qui est intéressant avec le réseau, c'est qu'on coordonne des outils, on offre des formations, on fait de la communication, mais les entreprises restent indépendantes. Nous avons plus de 150 offres à travers nos producteurs de légumes, ainsi que de viande, œufs, pain, etc. Sans conteste, le réseau propose une variété de produits bio d'ici et directement aux consommateurs, que ce soit via leur site web ou par un système d'abonnement mensuel. C'est hyper personnalisé à la ferme. Le principe de ce modèle, c'est que le citoyen va retrouver son panier de famille le plus proche de chez lui, de son travail, de sa garderie, etc. C'est le citoyen qui choisit son point de cueillette et qui a rendez-vous chaque semaine avec son fermier ou sa fermière. Le réseau assure aussi une stabilité des prix entre les entreprises. Bien sûr, chaque ferme présente son offre de produits sur son site web avec un exemple du panier du mois. Ainsi, le réseau rassemble un type de production agricole où chaque ferme possède sa couleur et est indépendante, en s'engageant sur le fait qu'il n'y aura jamais moins de 8 espèces de légumes dans chacun des paniers, assurant ainsi une offre variée pour les consommateurs et consommatrices. On se rappelle que les fermiers et fermières du Québec, comme ceux et celles en France, ont fait l'actualité il y a quelques mois, lors de manifestations, en demandant notamment au gouvernement d'être davantage considéré, en lien avec les difficultés liées au changement climatique. Les valeurs du réseau prônent l'agriculture soutenue par la communauté, l'autonomie alimentaire et l'agriculture biologique de proximité, une façon nécessairement de pallier certains problèmes socio-économiques. Depuis 25 ans, c'est exactement ce qu'on répond. La responsabilité ne peut pas revenir qu'au consommateur ou qu'à l'entreprise privée. En fait, on vit dans un monde qui nous a démontré la débandade totale de ce que ça fait que de laisser ça dans les mains du privé et que l'État a son rôle à jouer. On dit toujours, devant l'inaction, sachez que quand vous adhérez à l'agriculture soutenue par la communauté, au moins, vous êtes persuadé que vous allez dans le sens de la solidarité, de l'économie locale et de l'environnement. Appuie Émilie en donnant l'exemple que personne n'a le temps de lire les étiquettes en épicerie ou encore que la provenance de certains aliments n'est même pas indiquée. En adhérant à notre réseau, qui n'est pas le seul, mais bien le plus grand réseau d'agriculture soutenu par la communauté au monde, c'est une façon d'être assuré de la provenance des aliments et de la certification bio. Qui plus est, chaque livraison de panier est une occasion d'éducation, précise Émilie. Par exemple, quand j'ai 150 familles qui viennent chercher des paniers de légumes au lieu de cueillettes, les gens sont curieux, ils veulent savoir. Ils posent des questions sur ce qu'ils mangent, les légumes de saison, l'agriculture en serre, etc. Ce sont d'ailleurs ces mêmes personnes qui ne remettent pas en question les prix de nos légumes, car ils comprennent leur provenance et le travail derrière. Bien sûr, on ne peut guère défendre ou protéger ce qu'on ne connaît pas, d'où l'importance de l'éducation en ce sens. Si le monde de l'agriculture nous paraît d'emblée très hétéronormé, Émilie y va d'un constat. Plus je travaille dans le milieu, et plus je rencontre de gens, plus j'ai envie de dire que l'agriculture est vraiment un milieu queer. La relève est vraiment alternative. Dans ma classe à Victo, ce n'était pas 10%, mais plutôt au-dessus de 30% qui s'identifiaient comme étant de la diversité. Et la moitié de mon équipe à la coop est officiellement ou non officiellement issue de la diversité. Le président du CA est gay. Donc, on est vraiment en famille. Si Émilie a acquis une ferme avec sa conjointe, l'amour est dans le pré et nous a appris qu'il n'est pas toujours facile de trouver l'amour sur la terre, surtout lorsqu'on est une femme lesbienne. Or, si la copine d'Émilie n'évolue pas du tout dans le même milieu, la fermière avoue cependant avoir une facilité à concilier travail-famille. Je suis extrêmement privilégié car ma blonde travaille en cinéma comme chef maquilleuse-coiffeuse, CCM. On a réalisé que les farmers puis le monde en cinéma se rejoignent à plein de niveaux, en plus du fait que toute la gang porte des blondstones. On fait tous des journées de 12 à 14 heures, avec des horaires variables et atypiques. Ça fait un peu plus de 2 ans que nous sommes en relation et c'est frappant de voir comment on est chanceuse à ce niveau-là. Info. Site du réseau des fermiers et fermières de famille, fermiersdefamille.org. C'était « Cœur maraîcher », un texte de Julie Vaillancourt, paru le 21 mai 2024 dans le magazine Fugue.
Plein feu sur la collaboration en classe. Un texte d'Émilie Pelletier-Grenier, paru le 4 avril 2024 dans Québec Science. Les approches collaboratives ont le vent en poupe. Des chercheurs et chercheuses en didactique se creusent la tête pour les favoriser. Tout comme la société, le système scolaire est en constante évolution et il est un puissant agent de socialisation. Par le biais des apprentissages et plus largement de l'expérience scolaire, il tente de former des citoyens et des citoyennes. La coopération fait d'ailleurs partie du lot des compétences à acquérir à l'école. À la clé, interagir avec ouverture d'esprit dans différents contextes, contribuer au travail collectif et tirer profit du travail en coopération. Après tout, l'apprentissage ne se fait jamais de façon isolée, et l'enseignement non plus. Autant miser sur la force du collectif. L'IA, outil pédagogique prometteur. ChatGPT a fait une entrée fracassante dans le monde de l'éducation, aux grandes dames de nombreux professeurs qui y ont vu un outil de tricherie. Et si l'intelligence artificielle, IA, pouvait au contraire faciliter l'enseignement? C'est l'idée que défend Raoul Kamga Kwamkam, professeur au département de didactique de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, et spécialiste de l'intégration du numérique en éducation. Le professeur est persuadé qu'aujourd'hui, les outils d'IA générative peuvent aider non seulement les élèves, mais aussi le personnel enseignant en sciences au secondaire. Ces systèmes pourraient par exemple créer des problèmes complexes plus faciles à résoudre en groupe que de façon individuelle. L'ordinateur serait en mesure de générer sans cesse un nouveau problème, tant et aussi longtemps qu'il ne serait pas résolu par les jeunes en équipe. Ces derniers pourraient aussi, ensemble, devoir distinguer les bonnes informations scientifiques des mauvaises générées par un système d'IA. L'adoption de ces technologies se heurte toutefois au manque de moyens et à la résistance au changement, car beaucoup d'enseignants et d'enseignantes voient dans l'utilisation de l'IA une charge supplémentaire. Il faudra donc revoir les méthodes d'enseignement et d'évaluation, ainsi que la formation des enseignants pour bien intégrer ces outils, soutient le chercheur. Pour le plaisir d'écrire. Si la lecture et l'écriture font souvent office d'activités solitaires, leur apprentissage pourrait être facilité par le travail d'équipe. C'est entre autres une des pistes explorées par Jesse Marin à l'Université du Québec à Rimouski, UQAR, dont un des principaux sujets de recherche est l'écriture en collaboration. Une tâche qui va bien au-delà du simple travail d'équipe. Il faut outiller les élèves pour qu'ils soient en mesure d'accomplir des gestes aidants pour eux et pour leurs partenaires, résume la professeure. Par exemple, pour une expérience de tâche d'écriture réalisée à deux, son équipe a demandé aux élèves de s'asseoir côte à côte. Nous leur avons donné une seule feuille et deux crayons de couleurs différentes pour qu'ils puissent voir le travail réalisé par chacun. Nous leur avons dit qu'il était important de regarder la personne qui écrit et de faire des commentaires ou de poser des questions lorsque celle-ci fait une pause pour ne pas freiner son élan. Ce sont des modalités et des gestes qui peuvent paraître simples, mais qui ont grandement favorisé l'engagement, explique celle qui utilise aussi les approches collaboratives auprès de ses étudiants et étudiantes, futurs membres du corps enseignant. C'était Plein feu sur la collaboration en classe. Un texte d'Émilie Pelletier-Grenier paru le 4 avril 2024 dans Québec Science.